Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Oumpatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir et bienvenue.
Merci beaucoup Yacouba, bienvenue à vous aussi, après une semaine intense de la Basketball Africa League, bienvenue au Bénin.
Merci beaucoup Élisée, merci à tous en tout cas de votre présence. Et puis d'ici là, on me signale bien sûr qu'on a Amdine Sy en ligne, il est dans l'Ohio à Columbus, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Voilà, en attendant de retrouver le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Merci à tous en tout cas de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Nous parlons bien évidemment de football pour commencer. L'USM Alger remporte la Coupe de la Confédération battue à domicile 1-0 par les Tanzaniens de Young Africans. Lors de la finale, un retour, les Algériens vainqueurs 2-1 à l'aller l'emportent donc sur l'ensemble des deux rencontres. Un sacre mérité selon leur entraîneur Abdelhak Ben Chiha.
Mérité par rapport les 12 matchs, on était au top. Donc, mais nous sommes heureux, tout le peuple algérien est heureux, alhamdoulilah. Quelle est l'histoire du club? Club, un grand club, un grand disciple. Sur le plan continental, des hauts et des bas, on a fait une finale, nous avons fait une demi-finale. Mais ça reste fragile, je pense. Nous méritons le titre.
Voilà, Abdelhak Ben Chiha, entraîneur de l'USM Alger. Un sacre mérité aussi, selon Amine Birouk, que nous retrouvons tout de suite. Voilà, et donc d'ici là qu'on retrouve Amine Birouk. Alors, Élisée, le club algérien gagnait, enfin on va dire, un trophée majeur sur le continent après 86 ans d'attente.
Bien évidemment, le club de la Médina, qui est l'un des plus vieux clubs d'Algérie, vous imaginez, c'est un peu comme l'Olympique de Marseille, après sa création en 1899, a remporté la Ligue des Champions en 1993, tout comme le FC Barcelone aussi, en 1992, il y a des clubs qui peinent sur le continent, après avoir perdu une finale contre le tout-puissant Mazembe, c'est enfin la bonne, et que ce fut dur, Yacouba Ouédraogo, déjà vainqueur 2-1 du côté de Dar es Salaam, eh bien, les Algériens pensaient que bon, ils pourront gérer le match retour à domicile, mais c'était sans compter sur la détermination des Tanzaniens qui étaient surmontés avec un matin de fait. Ils ont bien rentré dans le jeu en trouvant ce penalty bien transformé par Touma, l'international congolais, bien, pour réussir aux Congolais. Si les Algériens ne se retrouvaient pas, eh bien, cette Tanzanie, j'allais dire, allait prendre l'avantage avec ce ballon contrôlé à la poitrine, mais mal exécuté par Fiston Maïré, le meilleur buteur de ce club congolais. Sinon, on aurait pu assister à 2-0. Mais tant mieux pour les Algériens. Et puis, bon, une déception pour les Tanzaniens aussi qui étaient arrivés à ce niveau de la compétition pour la première.
Voilà, ce sacre de l'USM Alger est aussi mérité selon Amine Birouk.
Et c'est le premier trophée pour l'équipe de l'USM Alger. Ça a été fait dans la douleur face à une formation tanzanienne requinquée après sa défaite du match aller sur le score de 2-1. Les hommes de Ben Chiha voulaient remporter ce premier sacre continental. Ils étaient tenaillés par le trac et on l'a vu tout au long de la confrontation. Puisque c'est l'équipe tanzanienne qui a pris le dessus, qui a réussi à marquer un petit but, qui aurait pu l'ouvrir davantage la route vers une première consécration continentale. Et puis les Algériens avaient l'opportunité de se rassurer et de moins stresser s'ils avaient converti un pénalty complètement manqué. Mais dans l'ensemble, l'USMA a mérité sa présence dans cette compétition, son sacre, tout au long de son parcours, que ce soit en phase de groupe ou lors de la phase d'élimination directe, l'équipe entraînée par l'ex-coach de la Renaissance sportive de Berkane, Abdelhak Ben Chiha, a su faire preuve de discipline, de maîtrise, d'organisation, d'opportunisme. Et aujourd'hui, elle fait un joli champion de la Coupe de la CAF, un champion qui met fin à la suprématie du football marocain, illustré par les deux dernières consécrations où les trois dernières consécrations, celle de la Renaissance sportive de Berkane et du Raja de Casablanca.
Voilà, Amin Birou. Donc, alors, Jules, les Tanzaniens de Young Africans étaient aussi proches du but, il faut le reconnaître, remporter un trophée africain, surtout après tant d'investissements dans leur football.
Oui, bien sûr. Et surtout que le match nous a donné la leçon de l'arroseur arrosé. Ce que l'USMA a fait à Dar es Salaam pour gagner, c'est exactement la même chose que les Tanzaniens ont fait en Algérie et ont finalement, avec leur but matinal, fait déjouer les joueurs algériens qui ont été fébriles, surtout en fin de rencontre, où ils ont carrément été presque obligés de courir la rencontre pour atteindre le résultat final, ce qui est un signe d'expérience. Mais tout de même, ce côté négatif qu'on a pu remarquer dans les 15 dernières minutes et qui venait parfois des tribunes avec les fumigènes interrompant la rencontre ou rendant pratiquement le match invisible ou alors de la piste avec ses renvois de deuxième ballon pour faire reprendre le jeu ou encore plus cet éventail de chute interminable ou alors dans les changements, 7-3 minutes qu'on perd pour un seul changement. Alors cette atmosphère des années 60, alors que nous on est dans le football moderne, nous a laissé pour un match qui s'est déroulé aussi dans des conditions aussi bonnes, c'est-à-dire sur le terrain, du beau football, nous a laissé quand même un peu sur notre faim et nous a questionné sur le fait que la CAF devrait avoir aussi des réflexions dans ce dans la mesure où dans les grands pays de football que nous voulons imiter et cela ne se passe plus. Mais sinon, c'est une bonne finale et un bon vainqueur au bout du compte.
Voilà, qui est dit donc. En même temps, c'est le coup de gueule de Jules Valentin Ngoué. C'est aussi ça, les rencontres de football en Afrique du Nord surtout. Et je pense, bien sûr, comme Jules l'a dit, la CAF va y regarder et essayer de mettre un peu d'ordre. Vous suivez Sporama, suivez au Afrique. Ne bougez pas, l'émission revient tout de suite. En Ligue des Champions, CAF, bien sûr, on jouait la finale aller à la Ligue du Caire, a enlevé à domicile le premier match succès 2-1 sur le tenant du titre, le Wydad de Casablanca. Analyse de la rencontre avec Amin Birouk.
C'est un exercice de résistance qu'a effectué le Wydad hier au Caire face à l'équipe la plus prestigieuse de notre continent. Elle est qui a été soutenue par près de 67 000 supporters. Et qui a réalisé une première mi-temps hyper offensive, dominant quasiment toutes les phases de jeu et poussant l'équipe du Wydad dans ses derniers retranchements. Et pourtant, c'est un peu contre le cours du score que le Wydad aurait pu marquer sur un face-à-face manqué par les Dajjadi face au portier Mustapha Choubier, le fils de l'ex-portier de l'équipe d'Égypte entre 1988 et 1996. Puis, il y a eu ce petit bug dans les arrêts de jeu qui a permis à l'équipe égyptienne de marquer son premier but signé Percy Tau sur un excellent centre de Shahat. En deuxième mi-temps, le Wydad a été poussé à se découvrir et c'était au moment où les champions du Maroc en titre et champions d'Afrique étaient dans un temps fort que l'équipe de l'Ahli a asséné un deuxième coup de massue signé Karaba après une très grossière erreur du portier Montaigne. Dans le Wydad est resté dans le match. Il a su avoir quelques occasions, notamment une frappe de Atiatla sur le poteau, avant que sur un rush de l'Amloud, le remplaçant Bouhra n'expédie le ballon sous la barre de Choubir à la 85e minute. Le Wydad préserve l'essentiel, c'est-à-dire ses chances de remporter au match retour son quatrième trophée continental. Il faudrait pour cela gagner sur le score de 1-0 minimum et surtout réussir à préserver un certain équilibre, c'est-à-dire marquer sans concéder face à une équipe qui n'a pris qu'un seul but lors de ses 5 dernières confrontations africaines. Autant dire que ce sera une équipe d'El Ahly qui viendra avec l'ambition de remporter son 11e titre face à un Wydad qui aura l'avantage du public au complexe Mohamed V dimanche prochain.
Voilà, qui est bien dit. Alors Amdine, si je vous rejoins maintenant. Amdine, le Wydad mené 2-1 dans cette finale aller de la Ligue des Champions. Tout reste quand même ouvert au match retour, surtout que ça se joue à Casa.
Oui, tout à fait, tout reste possible, puisque 2-1, ce n'est pas un très bon score. Hein, si on sait qu'en Afrique, le pays marqué à l'extérieur compte toujours double en cas d'égalité. C'est ce qui s'est passé avec l'Ismaël. États-Unis contre les Tanzaniens. Mais ce qu'il faut de te retenir, Yacouba, c'est que les Égyptiens sont des compétiteurs. Ce n'est pas pour rien que Al-Ahli est le plus grand club, le club le plus titré de ce continent. Puisque si on regarde quand même le parcours de cette équipe de Al-Ahli, miraculeux, hein, lors de la phase de poule,
absolument,
ils sont qualifiés in extremis au détriment de Al-Hilal du Soudan. Après, lorsqu'il s'est agi quand même de négocier les matchs à résultat immédiat, ils l'ont fait de fort belle manière en se qualifiant à la finale. Et comme c'est une remake de la finale de l'année dernière, ils l'ont bien négocié en s'imposant par 2-1. Ils ont bien négocié cette première match, mais attendons de voir, puisque le but marqué par les Marocains à la 85e minute veut son posant d'or. Maintenant, c'est un match retour qui va se jouer à Casablanca avec le public. Amin l'a dit tout à l'heure, un but va suffire aux Marocains pour conserver leur titre. Mais les Égyptiens, ils savent défendre, ils savent attaquer, ils savent négocier les matchs. Moi, pour moi, en ce moment, c'est vrai que Balotage est un peu favorable aux Égyptiens, mais pour moi, rien n'est encore joué, Yacouba.
Bien évidemment, rien n'est encore joué. Alors, Élisée, le champion en titre, hein, je vais dire le Wydad de Casablanca, peut encore renverser la vapeur à domicile.
Bien évidemment, peu, oui, c'est le mot qui correspond, peu, puisque en face, hein, c'est le National Al-Ahli du Caire, le club le plus prestigieux, Amin vient de le souligner, le plus expérimenté. L'année dernière, la finale a été jouée sur un seul match, n'oublions pas, et c'était à Casablanca, et donc l'avantage du terrain avait permis aux Marocains de remporter. Maintenant, il y a un petit avantage pour les Égyptiens, n'oublions pas, c'est vrai. 2-1, on peut dire, voilà, les Marocains ont fait le plus difficile d'inscrire le but, un but à l'extérieur, mais ça reste quand même un avantage, une petite option, il ne faut pas l'oublier. Et le National Al-Ahli du Caire a quitté très loin, presque éliminé, déjà avant la dernière journée des matchs de poule, et s'est rattrapé en battant d'abord le Al-Ahli Omdurman avant de commencer par enchaîner les victoires. N'oublions pas aussi que le Wydad aussi a eu des difficultés après avoir changé son entraîneur. Eh bien, s'est qualifié in extremis devant un club que vous connaissez très bien, le Mamelodi Sundowns. Donc, tout est ouvert. Peut bien évidemment renverser les Égyptiens, mais attention, c'est un match de 90 minutes. Et attention, je le dis encore, attention à ces joueurs égyptiens.
Voilà, un match donc qui reste encore à jouer. Il reste donc la seconde manche. Alors, Jules, vous l'évoquiez tout à l'heure lorsqu'on parlait de la finale de la Coupe CAF. Cette fois-ci, c'est la finale de la Ligue des Champions, toujours en Afrique du Nord, à Casablanca pour le match retour entre le Wydad et Al-Ahli d'Égypte. Ce que vous mentionnez tout à l'heure, on risque d'avoir encore les mêmes choses.
Oui, mais là, quand même, on est une catégorie un peu au-dessus. Al-Ahli et le Wydad sont des équipes habituées à gagner ces derniers temps. Donc, en fait, quand ces deux équipes se rencontrent, la vérité se trouve surtout sur la pelouse. Pour ce match aller, par exemple, Al-Ahli avait pris l'avantage, avait imposé son football offensif avec ses attaquants très remuants. Et il aurait pu réussir le chaos. Mais le WAC a montré que c'est une équipe très expérimentée qui repose sur une défense extrêmement solide et qui sait par timonée et lancer des fulgurantes d'achats qui changent pratiquement par tout à certains moments. Et donc, sur ce rythme-là, nous aurons encore un match tactique la prochaine fois, mais ce ne sera pas dans les tribunes. Je le dis bien sûr, la pelouse, c'est des équipes expérimentées, c'est des pays de grand football qui jouent depuis au moins 10 ans, jouent au haut niveau régulièrement. Donc nous aurons un match correct sur les gradins et aussi sur la pelouse où tout peut arriver. Et le Al-Ahli vient pour gagner. Et ça, il ne faut pas que le Wydad l'oublie. Mais seulement en début de rencontre, le Wydad va jouer un peu contre nature dans la mesure où c'est une équipe qui aime souvent être attentive avant de placer des accélérations. Mais ici, il faudra qu'elle fasse le jeu. Alors là, attention aux flèches de Al-Ahli à l'avant. Je pense que ce match-là peut nous donner aussi un chaos, on ne le sait jamais, à un moment de la rencontre, à l'avantage de l'un ou de l'autre.
Voilà, à l'avantage de l'un ou de l'autre, ne bougez pas. Hein. Nous allons refermer cette page football sur le continent, mais nous revenons juste après. football toujours, mais cette fois-ci chez les petites catégories, le Nigeria a été éliminé du mondial des moins de 20 ans qui se joue en Argentine. Les Flying Eagles se sont inclinés en quart de finale hein, devant la Corée du Sud, score 1-0 après prolongation. Alors Élisée, le dernier représentant africain dans cette compétition est out. La suite se passera sans l'Afrique.
Bien évidemment, et pour une troisième fois de suite, hein, il faut le signaler. C'est une grande déception, hein, Yacouba. C'est une très grande déception, j'allais dire. On parlait d'une déception, on parlait du Sénégal, mais cette fois-ci, comment éliminer l'équipe organisatrice, hein, l'Argentine? Et quand on parle des juniors, comment éliminer l'Argentine et se faire éliminer par la Corée du Sud avec autant d'occasions? Vous imaginez, c'est un peu cette situation que les Africains n'arrivent pas à bien négocier. On a vu le Maroc en Coupe du Monde, hein, face à la France en demi-finale. Au moment où on les attendait, on les voit moins. Une fois encore, le Nigeria, qui est à la recherche de son premier titre au niveau des moins de 20 ans, puisque c'est le Nigeria qui est le pays le plus titré au niveau des moins de 17 ans. Donc vous imaginez, le Nigeria est passé totalement à côté face aux Sud-Coréens. Et Yacouba, c'est inédit. Et quand vous voyez un peu le carré d'as, l'Israël aussi qui a battu le Brésil, vous imaginez, on aura pratiquement des pays pas très attendus à ce niveau de la compétition, mais l'on retient simplement une grosse déception du côté Afrique que le Nigeria n'a pas pu passer l'étape sud-coréenne.
Alors, Amdine, les juniors nigériens avaient pourtant, Élisée le mentionnait, ils avaient pourtant suscité beaucoup d'espoir en éliminant en huitième de finale le pays hôte, l'Argentine.
Tout à fait, tout à fait. Mais si on regarde, ce n'est pas une surprise que les représentants africains n'arrivent pas à ce niveau de la compétition. C'est devenu une habitude puisqu'en 2017 et en 2019, c'était la même chose. Si on revient sur le Nigeria, c'est vrai que le Nigeria pouvait bel et bien négocier quand même ce match contre la Corée du Sud, mais les jeunes Nigériens ont pêché dans le dernier geste. Si on regarde les statistiques, 21 tirs pour seulement 3 cadrés pour les Nigériens. Du côté des Coréens, c'est 4 tirs en but. Voilà, la différence est faite à ce niveau. Mais si on regarde globalement ce qui s'est passé, le bilan de ces clubs, le Sénégal est la grande déception de cette compétition. Les champions d'Afrique n'ont pas pu réussir à avoir une victoire. Ils ont joué 3 matchs. 2 nuls, une défaite, ils sortent de la compétition. La Tunisie, et qui se qualifie comme meilleur troisième, éliminé en huitième de finale. Il n'y a que la Gambie qui est la grande satisfaction de cette compétition, puisque les Gambiens, on l'a dit, on ne les attendait pas. Ils ont fait un parcours remarquable lors des matchs de poule, 2 victoires, 1 nul. Mais malheureusement, en huitième de finale, ils se sont arrêtés. Je pense que les Africains doivent continuer le travail, être des compétiteurs, savoir que des compétitions comme ça se gagnent par le mental et par une organisation. Et si on veut vraiment marquer le football mondial, il faut vraiment faire la différence quand il le faut, Yacouba.
Alors, Jules, Élisée le mentionnait, hein, Israël qui bat le Brésil et qui se retrouve en demi, la Corée du Sud en demi, l'Argentine out. On sait que ce football de petite catégorie, c'est aussi un football, une compétition entre centres de formation. Est-ce que l'Afrique a mal justement à la formation?
Oui, tout le problème se pose à ce niveau. C'est que actuellement, il faut mieux se préparer et pour les différentes échéances. Peut-être on n'est plus à l'époque où le talent pur la comptait. Et au niveau des catégories jeunes, l'Afrique présentait des talents purs qui restaient à sa disposition. Mais actuellement, la formation se fait dans d'autres pays du monde et elle est accélérée. Et au contraire, les jeunes sont pris très tôt en Afrique pour aller évoluer dans les catégories jeunes dans ces pays, en tout cas se mettre en formation. Ainsi, au fur et à mesure, le phénomène des binationaux commence à se généraliser et on prend les meilleurs pépites. Donc les Africains devraient, à l'heure actuelle, surtout mieux préparer ces compétitions, aguerrir les enfants, les faire jouer ensemble parce que les matchs deviennent plus tactiques. Et surtout, pour gagner un match, il faut shooter ou tirer dans les buts. Il faut être précis, il faut être dangereux dans les phases finales des actions, ce qui n'est pas le cas souvent pour les Africains qui jouent, qui touchent le ballon, qui possèdent le ballon, qui font tout avec le ballon, mais ils aiment trop le ballon, il faut les laisser partir dans les buts des équipes adverses. Et c'est ça le football.
Voilà,
c'est qui est bien. Ce que je peux dire comme enseignement là-dessus.
Merci beaucoup, le doyen Jules Valentin Ngoué, toujours plein d'enseignements et de leçons. Alors nous enchaînons avec cette nouvelle. Le ballon d'or français Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 saisons passées dans le club espagnol. Lui, en tout cas, il ne souffre pas de formation. Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema ont trouvé un accord pour mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club, a écrit donc le club madrilène dans un communiqué. On va rappeler que Benzema est arrivé à Madrid en 2009 en provenance de Lyon. Et Benzema, qui laisse à 35 ans une trace indélébile, il faut le reconnaître, au sein du club madrilène avec 25 titres, dont 5 Ligues des Champions. Son dernier sacre européen en 2002 lui a ouvert donc les portes du Ballon d'Or. Hamdine, le numéro 9, longtemps resté dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, il faut le reconnaître, pendant des années, madrilène du Portugais, a pris les commandes du jeu offensif du Real. Une fois CR7 parti, et donc en 2018, et jusqu'ici, Karim Benzema, c'est du sans faute.
Tout à fait, il est devenu le soulier de cette équipe du Real de Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo. Et Benzema, c'est 647. Il a porté le maillot du Real de Madrid à 647 reprises. Il est le deuxième meilleur buteur de tous les temps de cette équipe avec 353 buts. Vous imaginez, Benzema, donc, c'est une légende vivante au niveau du Real de Madrid, mais il fallait que ça arrive un jour, il fallait qu'il change, et puis il a 35 ans, et comme on le sait, quand on est en fin de carrière et on a une proposition comme celle-là, ça ne peut pas se refuser, c'est pourquoi il est parti, puisque Benzema, il a battu tous les records. Ce qu'il a fait, aucun joueur français ne l'a fait. Donc, c'était temps pour lui, pour qu'il change un peu d'air et gagne encore beaucoup d'argent, Yacouba.
Alors, Élisée, on le sait, Benzema, c'est le football altruiste. Il marque beaucoup, il fait beaucoup de passes décisives, il participe au jeu. Et il dit que tant qu'un coéquipier est mieux placé que lui, il lui donne la balle. J'allais dire, Benzema, lui seul, c'est une école de foot. Et puis, n'oubliez pas, 14 années passées quand même au haut niveau, au Real.
Oui, 14 années passées au Real, vous l'avez tout mentionné, c'est bien. Il a connu des bas avec Mourinho, Deho, une fois avec Ancelotti et Zidane, une seconde fois avec Ancelotti encore. Il aura tout connu au Real. C'est parce que c'est une légende. Et la seule déception, c'est simplement avec l'équipe de France où il n'a jamais pu s'imposer, où il n'a jamais rien rapporté. Et sinon, en club, c'est pratiquement une grande star du football. On ne peut citer Messi, Cristiano, sans penser à Benzema.
Alors, Jules, justement, quelles leçons tirer de la persévérance et surtout de la patience de Karim Benzema dans le football?
Oui, mais il faut dire que Benzema doit ses succès à lui-même. Il a eu à faire face à une adversité interne inqualifiable et comme tous les grands champions qui ont eu cette adversité, à l'exemple de Mohamed Ali dans la boxe, en fin de compte, tout le palmarès et toute la réussite qu'on est en train de citer, et il la mérite presque tout seul. Et donc, ne serait-ce qu'à ce titre-là, nous le considérons, après toute observation, comme le meilleur joueur français de la présidente. Et c'est une bonne chose qu'il prenne sa retraite au moment où il est encore brillant et il peut gérer très facilement cette fin de carrière. C'est mérité pour le champion.
Voilà, Benzema donc qui a annoncé du côté de Al Ittihad en Arabie Saoudite, tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos et bien avant Cristiano Ronaldo. Jules, je reste avec vous. Cette forte offensive sportive de l'Arabie Saoudite a tout de même une coloration un peu géopolitique, très rapidement.
Oui, mais c'est juste parce que l'Arabie a un projet, c'est le même que les États-Unis avaient à l'époque de Pelé, de Beckenbauer, de Johan Cruyff, c'est d'augmenter l'intérêt de ce sport, surtout après l'histoire qu'ils ont eue ces derniers temps contre le futur champion du monde argentin, en pleine Coupe du Monde. Et aussi le côté business avec ces joueurs, il y aura beaucoup d'argent en circulation et ça fait toujours du bien à un pays qui est un des pôles fournisseurs des finances du football international.
Voilà, ce sont ces mots forts de Jules Valentin Ngoué que nous refermons ce numéro d'Esporama. Merci à nos consultants Élisée Mpatine, Amine Birouk, le doyen Jules Valentin Ngoué bien sûr et Hamdine Nassi. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Fimé Max Koyaweda. Je suis Yacouba Ouedraogo. On va se retrouver la semaine semaine prochaine. Mais en attendant, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.